Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Elle est l'un des lieux les plus visités au monde avec plus de 7 millions de visiteurs par an, dont 86% d'étrangers. Elle, c'est la Tour Eiffel, bien sûr. Et si les Français l'aiment plus que tout, force est de constater qu'ils y mettent rarement les pieds. Savent-ils seulement que leur monument préféré, inauguré en 1889 pour l'exposition universelle organisée en l'honneur du centenaire de la Révolution française, devait être détruit au bout de 20 ans? Si l'on n'avait pas eu l'idée en 1906 d'installer une station de radio à son sommet, la Tour Eiffel aurait été rasée purement et simplement. Non seulement elle a survécu, mais elle est devenue le symbole de la capitale française. Depuis qu'elle existe, quel visiteur, de la célébrité ou simple touriste, ne s'est pas fait photographier devant elle depuis l'esplanade du Trocadéro ou du côté du Champ de Mars? Alors, dans ce nouvel épisode en deux parties, je vous emmène visiter la Tour Eiffel du sol au plafond pour vous expliquer sa genèse et sa construction. La Tour Eiffel est le symbole international de Paris. Pourtant, comment la définir ? Pour Notre-Dame, on parle de cathédrale, pour le Sacré-Cœur d'une basilique, pour le Louvre d'un musée. Chacun de ces monuments a une fonction particulière. Mais qu'est-ce au juste que la Tour Eiffel ? Dans l'opuscule de présentation du projet initial, elle est présentée tout simplement comme une tour de 300 mètres. Si de nos jours ce monument est reproduit des millions et des millions de fois sur les cartes postales envoyées de par le monde, les témoins qui assistèrent à sa construction étaient pour le moins étonnés par ce drôle de projet. Et ses opposants avaient tout simplement le sentiment que cette tour métallique, outre qu'elle paraissait dépourvue de sens, était affreusement laide. Nous sommes en 1887. Depuis peu, on sait que le Champ de Mars a été choisi pour accueillir une tour de 300 mètres entièrement constituée de fer, œuvre d'un certain Gustave Eiffel. Dans une lettre adressée au commissaire de l'exposition universelle prévue en 1889, de nombreux artistes expriment leur indignation devant ce qu'ils appellent l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel.
La Tour Eiffel, dont la commerciale Amérique elle-même ne voudrait pas, c'est, n'en doutez pas, le déshonneur de Paris. Chacun le sent, chacun le dit, chacun s'en afflige profondément. Et nous ne sommes qu'un faible écho de l'opinion universelle, si légitimement alarmée. Enfin, lorsque les étrangers viendront visiter notre exposition, ils s'écrieront étonnés. Quoi ? C'est cette horreur que les Français ont trouvée pour nous donner une idée de leur goût si fort vanté ? Et ils auront raison de se moquer de nous, parce que le Paris des gothiques sublimes, le Paris de Jean Goujon, de Germain Pilon, de Puget, de Rude, de Barry, etc. sera devenu le Paris de Monsieur Eiffel. Il suffit d'ailleurs, pour se rendre compte de ce que nous avançons, de se figurer un instant une tour vertigineusement ridicule, dominant Paris, ainsi qu'une gigantesque cheminée d'usine, écrasant de sa masse barbare Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, le Dôme des Invalides, l'Arc de Triomphe, tous nos monuments humiliés, toutes nos architectures rapetissées qui disparaîtront dans ce rêve stupéfiant. Et pendant 20 ans, nous verrons s'allonger sur la ville entière frémissante encore du génie de tant de siècles, nous verrons s'allonger comme une tache d'encre l'ombre odieuse de l'odieuse colonne de tôle boulonnée.
Les signataires de cette diatribe ne sont pas d'obscurs littérateurs recroquevillés sur le glorieux passé de la France et réfractaires au progrès. Non, parmi eux, on trouve la fleur des écrivains français, François Coppé, le comte de Lille, Huysmans, Maupassant et même Émile Zola. Il est vrai que Gustave Eiffel, lorsqu'il s'agissait de décrire son projet, ne s'était pas révélé comme un as de la communication. L'idée centrale de cette tour, mais voyons, elle est très très simple.
Le principe consiste à permettre la suppression des grandes barres de treillis, des faces verticales destinées à résister à l'action du vent. Pour cela, la pile est disposée de manière que tout l'effort tranchant dû au vent passe dans l'intérieur des montants d'arrêt de la pile qui, pour la tour dont il s'agit, reçoivent une courbure telle que les tangentes à ces montants, menées à des points situés à la même hauteur, viennent toujours se rencontrer au point de passage de la résultante des actions que le vent exerce sur la partie de la pile au-dessus des deux points considérés.
Vous avez suivi ? Curieuse façon en tout cas d'introduire un projet destiné à changer la face d'une ville qui à l'époque était quasiment le centre du monde. Depuis plusieurs années, les ingénieurs d'Angleterre et d'Amérique caressaient l'idée de dresser une tour qui dominerait en hauteur tous les monuments du monde. À Londres, on avait même commencé les plans d'une tour de 1000 pieds. À Washington, on avait achevé la construction d'un obélisque qui atteignait presque 200 mètres. Sa construction avait pris 40 ans. Au cours de son édification, elle s'était mise à pencher, un peu comme la tour de Pise, et il avait fallu tout recommencer. Alors la France, championne du monde des idées nouvelles, figure de proue du vaisseau des nations libres, se devait, pour l'exposition universelle qui célébrait le centenaire de sa révolution, de montrer au monde qu'elle pouvait atteindre au ciel grâce au génie de ses enfants. Dans la presse de l'époque, on explique que si la tour de Babel n'a pu atteindre le ciel, c'est parce que les ingénieurs d'alors n'avaient pas le savoir des Français de 1880. Et que l'homme de la Bible, prisonnier de son obscurantisme, ne pouvait qu'échouer, là où le peuple des droits de l'homme, libéré de la tyrannie d'un dieu jaloux, saurait donner naissance à des bâtisseurs capables de dominer la nature une fois pour toutes. La tour de 1000 pieds, soit un peu plus de 300 mètres, serait la preuve de la victoire de l'homme sur le monde et le signe qu'il sait se rendre maître de sa destinée.
La tour Eiffel dominera de plus de 150 mètres les fameuses pyramides d'Égypte, œuvre orgueilleuse mais inutile des pharaons, monument lourd, élevé par une odieuse tyrannie aux dépens de l'esclavage et de la servilité. Notre tour de 300 mètres sera, par excellence, un monument caractéristique de la science pure, de l'art auguste et de la liberté dans le travail. Ceux qui la construisent ne sont enchaînés que par les liens sacrés du devoir professionnel et dominés que par l'amour propre national.
L'exposition universelle de 1889, avec ses 60 000 exposants venus de 35 pays et ses 35 millions de visiteurs, est sans conteste l'événement festif le plus spectaculaire de l'histoire du 19e siècle. Moins de 20 ans après l'humiliation de 1870, la France montrait à la face du monde qu'elle avait guéri de ses blessures et qu'elle était capable, en dépit d'une histoire chaotique, de se porter à la pointe de la modernité. L'industrie est alors en pleine expansion. La fée électricité illumine pour la première fois les nuits parisiennes habituées jusqu'alors aux faibles lueurs des becs de gaz. Sur le Champ de Mars, entre l'immense salle des machines et le pavillon des industries nouvelles, la tour Eiffel suscite l'enthousiasme de tous les visiteurs au point que les journaux rapportent, amusés, l'accès de tour Eiffelomanie qui affole le monde. Au XVIIIe siècle, l'apparition de la montgolfière avait produit un pareil engouement, au point d'influencer le style des meubles et de la décoration des appartements parisiens. Puis il y avait eu la mode du losange en 1798, et on retrouvait le motif partout, sur les parquets, les volets, les fauteuils, et jusque sur les couvertures de lit. Le zouave de l'Alma avait eu aussi son heure de gloire. Il s'était vu décliner en chandelier ou en pendentif. Les chapeaux de Napoléon, quant à eux, s'étaient retrouvés commués en cendrier ou en tabatière. Dans son édition du 25 septembre 1889, à un mois de la clôture de l'exposition, Le Figaro s'étend sur le phénomène.
À Paris, à Londres, à Vienne, à Saint-Pétersbourg, qu'entend-on? Que voit-on? Que demande-t-on? Consultez l'écho, il vous répondra « Tour Eiffel ». À elle, chaque jour, une rubrique dans les journaux. Pour elle, chaque jour, des milliers de commandes et des milliers de sous. Un instant, il fut question d'établir dans les grands magasins un rayon Tour Eiffel. On dut y renoncer, la tour étant partout.
Oui, vraiment partout. Dans les magasins, on empile les vêtements en forme de tour Eiffel. Dans les rues, les orgues de barbarie jouent une nouveauté appelée 300 mètres de musique polka. Le nombre 300 devient viral. Les kiosques à journaux présentent 300 verres en forme de tour qui laissent apparaître en filigrane les portraits des grands hommes de la Révolution. Chez de prestigieux bijoutiers, on trouve des tours en diamant de 300 carats. Lors des soldes, les magasins vendent des lots de 300 jaquettes, de 300 pantalons, de 300 complets. Le cuir des chaussures, sans qu'aucune explication ne soit donnée pour justifier l'étrange décision, se trouve soudain taxé à 300 sous. À côté de la tour Eiffel en métal découpé, se montant en 15 minutes, on vend des bérets tour Eiffel, des papiers peints tour Eiffel, des cravates, des chemises, des pantoufles, des ombrelles, des mouchoirs, des rubans tour Eiffel. La dentelle se pare d'une nouvelle manière, la pointe tour Eiffelée. On produit pour l'Angleterre des couteaux tour Eiffel. Boîtes d'allumettes, porte-monnaie, porte-cartes, boutons et épingles de cravate, manches de canne et de parapluie, en-têtes de papier à lettres, coupe-papier, porte-plume, assiettes, verres, vases, salières et poivrières, bracelets, boutons de manchette, thermomètres, presse-papier. La tour Eiffel remplace même l'encre marine sur le ruban des chapeaux matelots.
Entrez et voyez, tour Eiffel en or, en bronze, en diamant, en nickel, en acier, en cuivre, en fer, en faïence, en bois, en verre, en carton et même en cheveux. De 300 francs à 3 sous, mesdames et messieurs, faites vos choix. Ô Eiffel, sois béni des camelots, boutiquiers et petits fabricants en chambre. Ô Eiffel, que ton image, partout reproduite, prenne place au premier rang des novateurs, des trouveurs de l'architecture du fer, mais grâce, grâce pour nous.
Tandis que le public se rue dans les boutiques pour emporter le précieux souvenir de sa visite, les journaux satiriques tirent à boulet rouge sur le monstre hideux, qualifié tour à tour de mât ridicule ou suprême offense de pointe de casque prussien. L'exaspération de ses détracteurs est attisée par l'association systématique que les journaux officiels font de la tour et de son constructeur, dont le portrait se retrouve partout. Gustave Eiffel et sa tour, inséparables, sont comme Napoléon et sa redingote grise, ou pire, comme Saint-Roch et son chien. Gustave Eiffel, lui, a tout lieu de se réjouir. Quoi de plus glorifiant pour un artiste ou un inventeur que la vague d'un triomphe populaire venant balayer la cabale jointe de l'ignorance et de la jalousie. L'ingénieur, avec cette placidité et cette détermination qui le caractérise, va prendre le temps d'expliquer à ses détracteurs que son œuvre est non seulement belle, mais utile. Fidèle à cette école d'architecture européenne tout entière sortie de la cuisse du Romain Vitruve, il est convaincu que le beau et l'utile sont indissociables dans la conception d'un bâtiment et que les deux se répondent, se nourrissent mutuellement pour l'édification du goût comme de l'esprit.
Je crois pour ma part que la tour aura sa beauté propre. Parce que nous sommes des ingénieurs, croit-on que la beauté ne nous préoccupe pas dans nos constructions ? Le premier principe de l'élégance architecturale est que les lignes essentielles d'un monument soient déterminées par la parfaite appropriation de sa destination. Est-ce que les véritables conditions de la force ne sont pas toujours conformes aux conditions secrètes de l'harmonie ?
Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire, je vous lirai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que je viens de vous raconter a été écrit par Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. La bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve demain pour la seconde partie de mon récit « Au cœur de l'histoire » consacré à la Tour Eiffel.